Une main verte à l'horizon, c'est Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et heureux d'être avec vous en studio à Paris, ça me fait grandement plaisir.
Et nous sommes contents de vous revoir effectivement. Aujourd'hui, nous sommes un 27 floréal et nous célébrons les civettes.
Et oui, vous faites bien évidemment référence au calendrier républicain et le 27 floréal correspond bien à la date d'aujourd'hui, le 16 mai. Ce calendrier est présenté aux membres de la Convention en 1793. Les deux personnalités qui ont décidé du nom des mois et des jours sont Fabre d'Églantine, quel nom merveilleux, et Toin. Philippe-François Nazaire Fabre, dit Fabre d'Églantine, est un poète et, comme ceux qui ont milité à ses côtés, il mourra guillotiné. Alors une légende prétend que, triste de n'avoir pas eu le temps d'achever un poème, il pleure dans la charrette qui le conduit à l'échafaud. Ce qui fait dire à Danton, condamné le même jour, « Ne t'inquiète donc pas, dans une semaine des vers, tu en auras fait des milliers. »
Et le second s'appelle André Touin et c'est un grand jardinier, dites-vous.
Agronome et botaniste, il est en effet jardinier en chef du Jardin des Plantes de Paris. Élu député suppléant en 1789, il navigue avec bonheur et peut-être même opportunisme entre les courants politiques de l'époque et il meurt donc paisiblement en 1824 à l'âge de 77 ans.
Et ce sont donc ces deux hommes, lui et Fabre d'Églantine, qui remplacent sur le calendrier les saints par des animaux ou des plantes.
Comme ils l'écrivent, l'idée première qui nous a servi de base est de consacrer par le calendrier le système agricole et d'y ramener la nation en marquant les époques et les fractions de l'année par des signes intelligibles ou visibles pris dans l'agriculture et l'économie rurale.
Alors le mois de floréal célèbre les fleurs donc, ça résonne, floréal, les fleurs qui s'ouvrent en mai.
Et parmi elles, la civette, on y arrive. Rien à voir avec le petit mammifère qui secrète une odeur musquée autrefois très employée pour aromatiser le tabac. C'est pour ça qu'on trouve autant d'ailleurs de bureaux de tabac qui s'appellent la civette. La civette dont je parle est une plante elle aussi aromatique, plus connue sous le nom de ciboulette. Déjà cultivée au Moyen-Âge pour ses propriétés pharmaceutiques, elle était alors surnommée l'appétit.
Au passage, quelle différence entre la ciboulette et la ciboule ?
Pas évident, pas évident. Alors que j'ai relu avec plaisir, pour être sûr d'avoir une réponse qui convienne, un ouvrage écrit par l'excellent Claude Bureau, qui en digne successeur d'André Touin, a œuvré au Jardin des Plantes de 1964 à 2014, 50 ans de maison, record à battre. Alors voilà ce qu'il écrit. La ciboulette est souvent préférée à la ciboule en raison de la finesse du feuillage et de son parfum plus nuancé. Et de me préciser ensuite de vive voix au téléphone, la différence est la même qu'entre un concombre et un cornichon, simplement une question de taille.
Vos réponses et vos conseils, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs de France Inter qui nous ont écrit. Carolina, par exemple, écrit d'Espagne où elle a un bel olivier. Or, depuis quelques années, il y a une espèce de coton blanc qui apparaît au printemps au niveau des feuilles jeunes. Alors, je l'enlève, ce coton blanc, avec le tuyau d'arrosage, écrit Carolina, mais il revient toujours. C'est quoi, de l'oïdium ou de la cochenille?
Vous avez tout compris. Je pense à l'oïdium. Et je pense que Carolina doit certainement profiter des belles journées ensoleillées pour utiliser son jet d'eau et ainsi débarrasser l'oïdium. Grave erreur, bien évidemment. Il faut savoir que les plantes, ce sont des êtres vivants doués de raison parfois. Et quand il pleut, c'est qu'il n'y a pas de soleil, parce que forcément il y a des nuages. Donc la plante s'adapte à la pluie en l'absence de soleil. Arroser une plante en plein soleil, surtout un olivier, pour débarrasser l'oïdium, c'est la meilleure façon de le refaire revenir et même de lui donner toute sa raison d'être. On n'arrose pas les feuilles d'une plante quand il y a du soleil, non pas pour des questions de brûlure, c'est pas l'objet, mais pour éviter justement l'apparition ou le maintien de toutes les maladies cryptogamiques.
Nelly, elle habite Boulogne-sur-Mer et depuis un certain temps, écrit-elle, tous mes bambous jaunissent. Pourriez-vous me dire, Alain Baraton, de quoi souffrent mes bambous ?
Qui dit Boulogne-sur-Mer dit présence d'un littoral. Qui dit présence d'un littoral dit certainement sel marin. Qui dit sel marin peut éventuellement signifier tempête. Pour peu qu'il y ait du vent et que ce sel soit transporté, eh bien on sait que le sel agit comme un désherbant. Et peut-être que ce bambou, parce que beaucoup de bambous résistent au sel marin sans aucune difficulté, mais certains sont extrêmement sensibles. Je pense qu'il s'agit tout simplement des embruns qui ne conviennent pas au bambou choisi pour en être la propriété de notre ami Nelly.
Question de François à propos d'un séquoia. implanté sur le terrain et l'assurance se préoccupe des dégâts potentiels de ce séquoia à proximité de deux immeubles. Conséquence en cas de chute de l'arbre. Est-il envisageable d'étêter ce séquoia afin d'en réduire la hauteur?
Certainement pas. Un séquoia étêté n'a plus beaucoup d'allure. Il va reproduire une flèche, mais il lui faudra beaucoup de temps. Le danger principal qui menace les séquoias de grande dimension, ce ne sont pas les tempêtes, c'est la foudre. D'autant plus que, si j'ai bien compris, ce séquoia est coincé entre deux immeubles. Donc il y a très peu de chances qu'il ne soit déstabilisé par le vent. Le séquoia est un bel arbre, mais il est vrai que étêter un séquoia n'a vraiment aucun sens.
Alain et Verena ont une petite haie de buis qui a été entièrement décimée par la pyrale, du même nom, la pyrale du buis l'année dernière. Toute la haie, sauf un buis qui a miraculeusement été épargné. Alors comment faire, vous demande Alain et Verena, comment faire pour reconstituer une nouvelle haie à partir de ce petit buis restant?
Peut-être l'occasion de se mettre au bouturage. Apparemment, ce buis ne plaît pas aux pyrales et c'est tant mieux. Faire des petites boutures, bien les reproduire. Donc bien reproduire ce pied mère et attendre l'automne prochain ou l'année prochaine pour reconstituer la haie ou replanter d'autres buis. Ce que je sais, c'est que le buis survivant, on n'y touche pas, on ne le taille pas, on ne l'arrose pas, on le laisse tranquille, c'est très important.
Allez, avec un dernier conseil, s'il vous plaît.
C'est un cri de joie, c'est la réouverture, aujourd'hui, du domaine de Chaumont-sur-Loire. Il faut savoir que les jardins sont dans une situation dramatique, le Festival International des Jardins, sa raison d'être, c'est d'accueillir du public. Alors bien entendu, on respecte les mesures de sécurité, mais on va à Chaumont-sur-Loire, c'est le Festival des Jardins, c'est aujourd'hui, et ça va continuer bien sûr, c'est merveilleux à voir. Département 41, Patricia Martin, je vous écoute. Merci. Le Loir-et-Cher.
Le Loir-et-Cher, bien sûr, on le dit après lui.
Première attaque du déconfinement.
Merci Alain Baraton, et à demain.
Une juste vengeance.